ça va, c'est parfait. L'important, c'est que vous entendiez. Voilà. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Heureux de vous retrouver, heureux de me mettre avec vous à l'écoute de la parole du Seigneur dans le texte que nous allons lire très bientôt. Mais auparavant, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, à qui d'autre pourrions-nous aller? Toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, c'est ta vérité que nous voulons entendre. Nous demandons ton secours. Sois avec chacun de nous et que ta parole puisse nous apporter ce dont nous avons besoin. Amen. Voici donc le passage que je vais lire qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 7 et je lis à partir du verset 24. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il y entra dans une maison. Il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syro-phénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Oui, Seigneur, répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle entra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il y a sous la table? Il faut faire attention, peut-être. Dans notre histoire, il est parlé de petits chiens. On sait qu'à l'époque, dans ce contexte, comparer quelqu'un à un chien, ça exprimait sans doute un certain mépris. Est-ce que c'est lié à l'origine de cette femme? Justement, dans le récit parallèle de Matthieu, Jésus précise bien qu'il n'a été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. On comprend effectivement l'intention. Pour autant, est-ce qu'il y a vraiment du mépris? Eh bien, Jésus parle ici non pas de chien, mais de petits chiens. Alors, ça peut paraître en détail, mais ce n'est pas le même mot dans le texte grec. Il me semble donc que Jésus utilise plutôt une image familière, facile à comprendre encore aujourd'hui, la proximité entre les enfants et les petits chiens, qui, contrairement aux chiens des adultes, ne sont pas jetés dehors, mais qui sont admis sous la table. Rien de nouveau sous le soleil, les enfants aimaient déjà les animaux domestiques. Alors bien sûr, les petits chiens en question passent après les autres, passent après les enfants. Mais c'est une image qui reste intéressante et qui peut nous apporter quelques surprises. D'abord, des surprises provoquées par cette femme, pour qui tout semble assez mal parti, au début. D'ailleurs, dans la société d'alors, ce n'était pas si évident pour une femme d'entrer chez quelqu'un d'autre sans prévenir, de s'adresser à l'invité de passage, qui plus est en se jetant à ses pieds. Vous imaginez la scène. Autre handicap, comme je le soulignais, elle n'est pas juive. C'est une païenne, donc impure pour les juifs. Grecque et d'origine syro-phénicienne. C'est le texte qui le dit, comme pour insister sur cette distinction. Qui plus est, la fille de cette dame a un esprit impur, ce qui n'était pas vraiment rassurant de la voir s'approcher, on ne sait jamais. Tout cela sans parler du fait que Jésus n'avait pas prévu d'être dérangé. Il voulait rester caché. Et pourtant, fait remarquable, dans tout l'évangile, c'est la seule personne qui, on va dire en quelque sorte, ait fait jeu égal avec Jésus. Les docteurs de la loi et autres scribes ou chefs religieux, sans oublier les disciples eux-mêmes, n'avaient jamais eu le dernier mot avec Jésus. C'est une exception. Est-elle intelligente? Sans aucun doute. Elle a de la répartie, mais dans le même temps, elle a un autre atout, l'humilité. Et c'est là qu'il nous faut revenir sur ce que lui dit Jésus. En effet, plutôt qu'un mépris, Jésus exprime une priorité. Laisse d'abord. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Alors, à qui correspondent ces enfants? Donc, on en a déjà parlé. Facile à comprendre que ce sont les Israélites. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Eh bien, c'est cette priorité sans doute difficile à accepter que notre personnage accepte en demandant que la grâce divine attribuée aux enfants d'Israël, qu'elle soit suffisamment grande pour l'atteindre elle aussi, même s'il faut attendre. Comme ceux qui tombent de la table des enfants, comme ceux qui tombent de la table des enfants est propre à nourrir aussi les petits chiens. Cette femme découvre, et par l'occasion, elle nous fait découvrir ou redécouvrir, en fait, que la grâce de Dieu ne s'arrête pas à nos limites, à celles que nous imaginons. Est-ce une intuition? Sans aucun doute. Mais intuition, sans doute aussi, conduite par l'Esprit de Dieu. Première surprise. Mais il y en a d'autres surprises, parce que Jésus est tout aussi surprenant dans cet épisode. Pourquoi a-t-il eu besoin de faire attendre cette femme en commençant par la décourager? Alors on a souvent dit que c'était pour la mettre à l'épreuve, pour la guider dans sa recherche, dans un cheminement de foi où elle a encore besoin d'apprendre à persévérer, avoir un peu plus de maturité. Jésus l'a fait souvent avec ses disciples. Il les a mis dans des situations difficiles quelquefois, où eh bien, ils étaient obligés de constater leur faiblesse et de compter sur lui, de le voir, lui, les secourir, répondre à leurs questions. Et sans doute cette femme a pu connaître les mêmes étapes ce jour-là, des étapes d'une prière qui doit rester tenace, persévérante. Mais je crois aussi que notre récit montre également autre chose. Si on s'arrête sur l'attitude de Jésus, hein, au départ on le voit plutôt sur la défensive, hein, comme s'il se repliait pour avoir un peu de tranquillité. Hein. Il cherche à garder son anonymat, même si ça s'est raté. Il entra dans une maison, hein, et le texte nous dit qu'il voulait que personne ne le sache. Et lorsqu'une étrangère vient le trouver, eh bien, sa première parole, c'est de refuser. Et à défaut d'être méprisant, eh bien, sa réponse, il a une réponse qui est assez froide, hein, décourageante. Si le texte s'arrêtait là, vous imaginez, vous pourriez dire, ben, tout est joué. Jésus parle de sa mission sur terre, il est bien sûr le Messie d'Israël, et le moment n'est pas encore venu où les nations seront concernées. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Bon. Mais il suffit d'une parole de cette étrangère pour que tout change, pour qu'il consente à agir et sans tarder. C'est tout de suite qu'il répond. Va, le démon est sorti de ta fille. Que s'est-il passé? Alors bien sûr, il y a la foi extraordinaire de cette femme qui ne peut le laisser insensible. Mais il me semble que notre récit rapporte également un changement qui s'opère dans le regard de Jésus. En d'autres mots, il voit qu'il y a déjà des païens sous la table qui, même avant l'ouverture du salut aux nations, comme ça va se faire à partir de la Pentecôte, peuvent recevoir les bénédictions de Dieu et surtout manifester une vraie foi. Je pourrais dire que parfois on a à l'esprit l'image d'un Jésus qui discerne les pensées secrètes de ses adversaires et de ses disciples. D'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent dans les évangiles, où Jésus connaît la pensée de ceux qui s'adressent à lui. Mais ici, j'ai l'impression qu'on touche un peu plus à son humanité, parce qu'il s'étonne. Il s'étonne en voyant qu'il y a des païens sous la table, qui sont demandeurs déjà, qui sont capables de manifester de la foi. Et je dirais, c'est même pas la première fois. On a la même chose dans le cas du centenier romain, du centurion romain, où Jésus s'étonne de la foi d'un païen. Je crois que ça fait partie de l'humanité de Jésus. Alors, je crois que à partir de cette humanité que Jésus a adoptée, à incarner, il nous faut à présent parler de notre humanité aussi. L'humanité de Jésus nous renvoie à notre propre humanité. Et nous avons, à plus forte raison pour nous, à découvrir qu'il y a aussi des personnes sous notre table bien garnies, des personnes que nous pouvons juger pas prioritaire dans le besoin, et qui malgré tout guette les miettes qui tombent. Table spirituelle, mais aussi table matérielle, puisque tous nos biens sont des dons qui viennent de Dieu. D'ailleurs, la séparation entre le spirituel et le matériel n'est pas aussi nette dans la Bible qu'on veut bien le croire. Alors, qui peuvent être ces étrangers pour nous? On pensera sans doute à ceux qui sont éloignés de notre foi, de nos modes de vie. Mais plus proche de nous, il peut y avoir aussi ceux sur lesquels nous avons des préjugés, Au début du récit, Jésus ne regardait pas ce qu'il y avait sous la table. Il a fallu cette femme pour qu'il s'attarde avec un peu plus d'attention sur cet autre aspect de sa mission. Les personnes auxquelles nous sommes appelés à répondre ne sont pas forcément repérables dès le premier regard, même si elles ne sont pas si loin que ça. Autrement dit, même si nous les voyons, nous ne discernons pas toujours leurs besoins. Alors c'est peut-être à nous de changer de regard. À nous de discerner ce dont nous ne soupçonnons pas les attentes ou ce qui ne marche pas exactement dans nos clous. Nous aussi, nous avons reçu une grâce dont nous étions écartés par notre péché. Et vous en êtes convaincus, ce qui est tombé de la table, ce n'était pas que des miettes. Je note également les circonstances dans lesquelles apparaît cette femme syrophénicienne. C'est juste au moment où Jésus ne voulait pas qu'on sache qu'il était là. Est-ce qu'on est toujours disposé à regarder? Ça pourrait faire l'objet d'une autre méditation, mais je laisse ça à notre réflexion. Pour dire et terminer avec ça, qu'à notre tour, nous devons être miséricordieux, comme notre Dieu est miséricordieux avec nous. Amen. Je vous invite à quelques instants dans le silence et le recueillement. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton regard sur nous, qui nous a vus tels que nous étions et qui nous voit encore tels que nous sommes. Tu nous connais, tu connais nos besoins aussi, mais tu nous regardes comme tes enfants, parce que nous le sommes. Amen. Pour introduire notre moment de Sainte Cène, je lirai ce passage du Deutéronome, ce verset du Deutéronome. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment fait à vos pères. C'est une précision qui était adressée au peuple d'Israël, précision qui vaut aussi pour nous, le peuple de la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas meilleurs ou plus grands que les autres, mais Dieu nous aime. Dieu nous aime et nous invite à vivre avec lui. Il nous invite aussi à partager ce repas que nous allons prendre avec reconnaissance. Il est bon, il est joyeux de le remercier pour la vie qu'il nous donne, vie terrestre, vie éternelle, pour ce moment de repas, ce moment de communion. Il est bon de nous savoir les frères et les sœurs de Jésus-Christ, de reconnaître les signes de son amour pour nous, ceux de sa mort et de sa résurrection. Ainsi, toutes les fois que nous mangeons de ce pain, que nous buvons de cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur. Je vais vous inviter à venir pour partager ce repas. Nous allons former en quelque sorte un cercle autour de la table. Si le cercle n'est pas parfait, la communion avec le Seigneur le sera. Je vous invite à approcher. Oui. Seigneur, nous te louons parce que tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Nous te louons pour ton Fils Jésus-Christ vivant au milieu de nous. Nous te louons pour l'Esprit qui nous rassemble malgré nos différences et qui fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton royaume. Amen. Nous allons chanter le cantique qui est prévu. Alors, c'est vrai, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Mon Dieu, par quel amour!
Sure.
Le Seigneur, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Ainsi, toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En nous invitant à sa table pour partager le pain et le vin, il nous invite à nous replacer devant lui, à compter sur ses promesses de pardon, à nous rappeler que ces signes que sont le pain et le vin, ce sont des signes de la vie qu'il a donnée, mais c'est aussi, ce sont des signes qu'il est vivant aussi encore au milieu de nous. Partager le pain et le vin, c'est aussi dire que nous répondons à cet amour de Dieu. C'est faire une démarche de confiance. C'est avec assurance que nous sommes là. Le pain que nous rompons et communions au corps du Christ, ainsi la coupe de bénédiction, c'est la communion au sang du Christ versé pour nous. pour la simplicité de ce pain, de ce vin, béni sois-tu, Dieu notre Père. Pour la simplicité de ta présence en Jésus, béni sois-tu, Seigneur. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif, donne-nous faim et soif de justice, de paix et d'amour. Apprends-nous le partage et fais-nous ouvriers de ton royaume. Amen. Mais nous pouvons regagner nos places.